Amos, dont le nom veut dire fardeau, ou celui qui porte un fardeau. Et ce livre nous parle surtout de la justice de Dieu. Et c'est un livre qui nous donne deux ou trois versets très connus, très puissants, mais c'est un livre qui suit le schéma classique des prophètes, c'est-à-dire il y a une déclamation et puis plus comme une condamnation où il donne la sentence et puis jusqu'à la fin il y a une restauration. Ce qui est différent chez Amos, c'est que normalement on parle d'abord de chez soi et puis les nations environnantes. Ça, c'est le schéma classique chez les prophètes. Chez Amos, c'est le contraire. On parle des autres et puis on arrive chez nous. Il est prophète du royaume du Nord, d'Israël donc. Il est aussi au même temps à peu près de Osée. Il est, en fait, il n'est pas un professionnel dans le sens qu'il n'a pas fait des études, si vous voulez. Il est simple berger agriculteur, ce qui est tout à fait remarquable aussi chez lui. Vous savez peut-être qu'il y avait des écoles des prophètes. Élie, il en avait, mais nous voyons surtout dans le ministère d'Élisée qu'il y avait des écoles de prophètes où il les formait. Mais Amos, apparemment, il ne sentait pas l'appel. Mais Dieu, il avait autre chose en tête pour lui. Alors, commençons. Verset 1. Parle d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. 2 ans avant le tremblement de terre, il dit, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il donne la voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Alors, la façon qu'il explique son métier, ou son vrai métier, si vous voulez, de berger est intéressant. C'est comme il faisait vraiment exprès pour que personne ne puisse pas faire la confusion entre quelqu'un dans un rôle pastoral et ce qu'il faisait. Alors, la traduction éleveur, ça, c'est près de ce qu'il a écrit. Il a cette façon que nous voyons dans les apôtres du Nouveau Testament de s'abaisser devant la grande tâche qu'il a, du genre Paul, servant de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça, c'est un exemple de l'Ancien Testament, de cette même mentalité. C'est la même forme en plus. Amos, éleveur, et puis appelé par Dieu. Et il parle d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a effectivement marqué tout le monde. On n'a pas beaucoup de détails sur ça dans la Bible. On a par contre une prophétie en Zacharie qui fait référence à ce tremblement de terre. Et ça, c'est en Zacharie. Zacharie, c'est un prophète qui a fait son ministère à la fin, en fait, de l'exil, quand les gens revenaient, juste pendant le temps qu'ils sont en train de reconstruire le temple. Donc, ça fait vraiment des centaines d'années entre ces temps-là. Mais apparemment, ce tremblement de terre était tellement marquant que ça restait dans l'esprit des gens. Joseph Flavius, il en parle aussi. Et c'est là où on ne sait plus si c'est la tradition ou si la légende ou c'est peut-être l'histoire, on ne sait pas. Mais Joseph nous dit quand même que ce tremblement de terre a été déclenché le moment où Ozias, roi de Juda, entre dans le temple pour brûler le parfum. Rappelez-vous un petit peu de cette histoire. Ozias, qui était un roi bien, qui faisait tout pour l'Éternel, qui avait le succès de la main de l'Éternel sur lui, mais pris par l'orgueil, il a osé entrer dans le temple, brûler du parfum, même si les sacrificateurs ont fait barrage pour l'empêcher, quand même, il est allé, et effectivement, le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Et après ce temps, son fils Jotham a pris donc le pouvoir, en quelque sorte, et lui, il restait à Akar. Alors, Amos, il vit dans cette époque, une époque assez terrible. Et c'est intéressant parce que je crois que ça devait être un temps dans l'histoire un peu extraordinaire où Dieu il fait des choses complètement inattendues. Il y a des tremblements de terre après que les rois entrent et en désobéissance. Il appelle des prophètes comme Amos qui sont des éleveurs. Et il fait des choses complètement inouïes. Le langage que Amos utilise, ce sont des choses très ordinaires. Ça fait penser à Christ dans le sens qu'il utilise ce qui est commun à nous tous, des choses de la nature pour décrire des choses très profondes. Et justement, il parle de l'Éternel qui rugit. Et tout de suite, on pense à Dieu en tant que lion, mais pas dans le sens de lion de Juda, sauf si ce n'est lion qui juge, qui fait peur. Un éleveur qui garde des moutons, il y a des ours, il y a des lions qui attaquent et ça fait vraiment peur. L'Éternel donc il rugit. De Jérusalem il donne la voix. Rappelons-nous qu'il est tout au fait au nord du royaume. Là, il parle de Carmel qui est desséché. Carmel, c'est une montagne qui est tout au nord du pays, pas très loin du Liban, si vous voulez. Alors, pour entendre quelque chose qui sort de Jérusalem sur le mont Carmel, quand même, c'est impossible du point de vue humain, mais ça parle de cette force de l'Éternel, dire en plus que Carmel est desséché, ça c'est complètement difficile à comprendre parce que la région de Carmel est quand même très verte. Il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup d'agriculture sur la montagne aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres et tout, et ça donne sur la mer Méditerranée. Dire que tout ça c'est desséché, ben il faut quoi? Il faut une grande famine, dessèchement, et il faut que les choses soient vraiment graves. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il commence. Ainsi par l'Éternel, à cause des trois crimes de Dama, même des quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galad avec des herses de fer. J'enverrai le feu contre la maison de Haziel. Il dévorera le donjon de Ben-Hadad et je briserai les verrous de Dama. J'exterminerai Bikat Aven, les habitants, et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera déporté à Kir, dit l'Éternel. Premier jugement est sur Damas, ou la Syrie. Et pourquoi? À cause de leur violence. Violence faite envers le peuple d'Israël, mais surtout cette violence gratuite, inexplicable. Aziel, qui est-il? Il était un roi qui, en 2 Rois, chapitre 8, fut même roi par Élisée. Élisée, prophète de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Élie a roi, un roi païen? À cause du jugement porté contre Israël. Et ce qui est troublant dans cette histoire, c'est qu'en 2 Rois 8, lorsque Élisée, il donne l'onction à cet homme, il commence à pleurer. Jusqu'à ce que le passage dit que ça gêne. Et puis Aziel dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis Élisée dit, je sais ce que tu vas faire. Combien tu vas faire de violence à mon peuple et tout. Et puis Aziel, bien sûr, il nie les faits. Non, c'est impossible, c'est pas encore arrivé. Et puis il rentre dans son royaume et il assassine le roi pour devenir roi lui-même. Alors comment ça se fait que maintenant cet homme que l'Éternel a choisi devient maintenant le sujet de ses jugements? Parce que puisqu'il avait Élisée là, il a eu quand même l'avertissement d'être en face d'un prophète. Et le prophète a été très très clair jusqu'à ce que Aziel lui-même fût gêné. Mais dans sa propre volonté, il a choisi le mal au lieu du bien. Aziel est devenu macabre dans ses façons. Oui, peut-être Dieu voulait corriger son peuple. Il n'a pas demandé ça. Et Dieu, il protège la veuve, l'orphelin, le pauvre. Il défend l'étranger, mais ne touche surtout pas la prunelle de son œil. Il ne touche pas son peuple. Et ainsi parle aussi l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont déporté tout un peuple pour le livrer à Édom. Et j'enverrai le feu contre les murailles de Gaza. Il en dévorera les donjons, je retrancherai à d'Asdod tout habitant et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran. Et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Même façon de parler pour 3 péchés, encore pour 4. Alors, il ne faut pas prendre ça littéralement parce qu'il répète partout et c'est juste une façon de parler. C'est une façon de parler qui est utilisée dans d'autres passages de la Bible. Et de toute façon, il ne cite que plus ou moins une crime par groupe. Mais c'est une façon de dire que ces péchés sont tellement immenses qu'ils sont arrivés à leur comble, que même 3 et même 4, comme, c'en est assez. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait, qui était vraiment la dernière chose? Ils faisaient des esclaves des gens. Et là, on parle de tout un peuple. Nous savons qu'il s'agit aussi du peuple d'Israël. Tout un peuple, ça ne veut pas dire 2-3 personnes. Ils ont fait des esclaves de beaucoup. Et ça donne une belle image de ce que Dieu pense de ça. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom tout un peuple de déportés. sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu contre la muraille de Tyr et il en dévorera les donjons. Alors, il a commencé donc dans le nord avec Syrie, puis il est descendu dans le sud avec Gaza. Maintenant, il repart dans le nord avec Tyr. Tyr, qui était assez puissant à l'époque, une puissance économique des Phéniciens. Et eux, il paraît qu'après que les Philistins ont capturé et fait des esclaves de ces gens, alors ils les ont vendus donc à Tyr, Tyr qui ont fait tout un trafic humain. Et là, nous voyons aussi ce que Dieu pense à ça. Parce que nous voyons que ces choses, ça existe toujours. Et souvent, surtout quand on entend ces histoires sordides, comment ces choses passent, même dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons être assurés que Dieu, il voit. Et Dieu, il ne prend pas ça à la légère. Et la justice viendra. Et ça nous dit aussi qu'il y a une justice que Dieu rend au niveau national aussi. Nous savons qu'il y a une justice donc personnelle, individuelle pour chaque personne. Mais il y a aussi un niveau national où, pour ceux qui exploitent les hommes et les femmes, tortueux, ceux qui font de tels crimes, il y a effectivement une justice au-dessus de tout, au-dessus des Nations Unies, qui est beaucoup plus efficace, qui un jour n'oubliera pas, mais qui la rendra. Et ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire sans cesse, et qu'il garde continuellement son courroux. J'enverrai le feu contre tes mains, il dévorera les donjons de Bostra. Édom qui, maintenant dans le sud-est, dans une partie aujourd'hui de l'autre côté de la mer Morte, c'est vraiment un désert, il n'y a plus rien. Et Édom qui avait le péché de laisser courir leur colère, même contre ceux qui étaient leurs frères. D'où vient Édom? Édom vient de Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Et c'est pour ça qu'il devait avoir la même compréhension que Ésaü avait lorsqu'il a rencontré à nouveau Jacob sur le chemin. Et il voulait l'accueillir et mais non, Édom, non. Édom dit, il a poursuivi son frère avec l'épée. Il aurait dû avoir compassion. Et il est intéressant qu'il dit en étouffant sa compassion. C'est-à-dire que ça a été là. Ils étaient au courant. Ils le savaient. Mais ils l'ont refoulé pour laisser la colère déchirer. Il y a une expression en anglais en parlant de la colère. on dit que quelqu'un made me mad. Pour traduire, il m'a mis en colère, ou ça m'a fait ça m'a fait ça. Mais je crois que quelque part ça traduit une certaine idée qu'on a tous dans n'importe quel pays, c'est qu'on pense souvent que ce sont des choses qui nous provoquent ou qui nous mettent en colère. Mais en réalité, il n'y a rien qui puisse vraiment nous mettre en colère ou nous provoque plus que on le veut. On peut, par le Saint-Esprit, on peut résister à ça. Même si on se laisse aller, on peut se repentir. Surtout nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous savons que même au fond de notre cœur, on a sa petite voix qui nous dit « Tu es en train d'aller trop loin. » Il faut écouter. Et ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne veux que pas mon arrêt parce que ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu contre la muraille de Rabba. Il en dévorera les donjons au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Violence gratuite, c'est horrible à nos yeux, d'autant plus pour l'Éternel. Ça montre aussi ce qu'il pense justement des femmes enceintes, à quel point c'est important de les protéger aussi. Ne serait-ce que donner sa place assise dans le métro. Et puis là, on parle de bien plus. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Moab, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu contre Moab. Il dévorera les donjons de Kériot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du son de corps. Je retrancherai le juge de son sein et je tuerai tous les chefs avec lui, dit l'Éternel. Le péché de Moab, c'est la vengeance. Il fallait qu'il répète. Il voulait donner justice. Mais le grand problème avec ça, c'est qu'il est allé beaucoup plus loin. Le roi d'Édom était déjà mort. Pourquoi mettre le feu à son corps? Mais c'est une belle image de la colère de l'homme qui n'obtient jamais la justice de Dieu. Et ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel. Et qu'ils n'ont pas gardé ses préceptes parce qu'ils se sont laissés égarer par les mêmes mensonges auxquels leur père s'était rallié. J'enverrai le feu contre Juda, il dévorera les donjons de Jérusalem. Quel était le crime de Juda? Ils n'ont pas suivi la loi. Alors, avec toutes les autres nations, ils n'étaient pas jugés selon la loi. Parce que la loi a été donnée à Israël. Mais eux, ils sont jugés par des choses qui sont humainement compréhensibles par leur conscience. Comme il est dit en Romains, chapitre 2 et 3. Sinon pas la loi, mais s'ils font ce qui est écrit dans la loi, nous reconnaissons qu'ils écoutent leur conscience. Dieu, il juge tout le monde justement. Avec justice pour ceux qui ont la loi. Ils sont jugés par rapport à la loi. Parce que nous sommes tous tenus responsables pour notre connaissance. Dieu, il juge sans favoritisme. Et ça nous fait penser à cette parabole que le Seigneur a racontée du roi qui a donné des talents à ses serviteurs avant de partir en voyage. À un, il donnait 5 talents pour qu'il le fasse valoir, un autre 3 et un autre 1. Et lorsqu'il revient, celui qui avait les 5 talents, il revient, il produit 10 et dit: bien fait, fidèle serviteur, entre dans le repos préparé par ton maître. Parce que tu as été fidèle avec un peu, tu vas recevoir encore plus. Et puis même chose avec celui qui en avait 3, parce qu'il avait produit 6. Et puis vient celui qui n'en avait qu'un. Et puis il revient et dit: bah voici ton talent, parce que je savais que tu es dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Puis il dit: mauvais, par ce servant, je te juge par tes propres paroles, parce que tu savais que je suis dur et que je récolte ce que je n'ai pas sémé. Tu aurais dû au moins mettre mon argent à la banque pour qu'il y ait un intérêt. Puis vous connaissez l'histoire, il le jette dehors, il y a les grincements des dents, il dit de donne le talent à celui qui en avait 10, parce que celui qui en a en donne encore plus, et celui qui n'en a pas en ôte même ce qu'il a. Vous voyez, si on est responsable seulement pour ce qu'on a, quelle est la différence entre celui qui en avait 5, 3 ou 1, s'ils étaient fidèles avec ce qu'ils avaient ou pas? Celui qui en avait 1, il n'était pas jugé pour en faire 10, mais seulement de faire avec ce qu'il avait. Et puisqu'il n'était pas juste, puisqu'il méprisait son maître, il a été donc jugé sévèrement, finalement, selon ses propres paroles. Et de la même manière aussi, lorsque nous voyons tout ce que nous avons reçu, nous réalisons à quel point nous sommes redevables devant Dieu, à quel point nous serons un jour ou un autre responsable devant lui pour faire le point de ce qu'on a fait avec notre vie. Heureusement, nous servons Dieu de grâce. Et c'est vrai que peut-être dans le passé, jusqu'à ce moment, on n'était pas toujours fidèle. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui. Il y a toujours aujourd'hui où nous pouvons nous repentir et puis le suivre à nouveau. Demander son pardon, demander son aide, faire valoir ce qu'il nous a donné. Et ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël. Enfin, il arrive maintenant chez eux. À cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Vous voyez, eux aussi faisaient partie de cette marchandise d'esclavage. Mais pourquoi? Pour des biens matériels, pour des habits. Ils convoitent jusqu'à la poussière de la terre. Comme si la poussière chez les autres, c'est mieux. Qui est sur la tête des indigents. Ils violent le droit des humbles. Les fils et le père vont vers la même fille. Là, c'est la perversion. Afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. C'est-à-dire, normalement, si on donne un gage, selon la loi de l'Éternel, les Israélites n'avaient pas le droit de charger un intérêt pour leurs frères. D'ailleurs, C.S. Lewis a dit: si seulement les Occidentaux avaient mis en application cette règle, il n'y aurait pas autant de dettes dans le monde. Peut-être il a raison. Mais surtout, même s'il n'avait pas le droit d'utiliser une espèce d'usure ou d'intérêt, surtout, il n'avait pas le droit de garder le gage de quelqu'un. Et surtout pas d'entrer dans la maison de quelqu'un et forcer qu'il lui donne un gage. Dans la loi, il est dit, si quelqu'un te donne un gage, comme son manteau, il faut que tu lui rendes avant la soirée, avant, pour qu'il ne prie pas l'Éternel et qu'il n'entende pas ses prières. Et puis ça termine mal pour toi. Mais eux, il paraît que c'était peu de choses. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui ont mis à l'amande. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait à celle des cèdres et la force de celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Guigal. Ne vous rendez pas à Beersheba. Car Guigal sera entièrement déporté et Bethel anéanti. C'est là où il y avait justement ces veaux d'or, les idoles. Cherchez l'Éternel et vivez. Craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'étendre. Vous qui changez le droit en absinthe et jetez à terre la justice, il a fait les Pléiades et Orient. Il a changé l'ombre de la mort en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Ce n'est pas la peine de louer des idoles. Et eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils convoitaient les autres, ils disent jusqu'à la poussière, et à cause de ça, ils se sont donnés complètement à l'idolâtrie. En fait, cette idolâtrie était peut-être même liée à leur convoitise, leur cupidité. De toute façon, la cupidité est une forme d'idolâtrie. Mais à quel point est-ce que c'est mauvais jusqu'au point où, à force de suivre leur convoitise, ils oublient l'Éternel? Et il fallait qu'ils disent « Cherchez-moi !» et pas ces autres idoles. Mais « Cherchez-moi !» il dit. Et encore plus, c'est lui qui a créé les étoiles. Les étoiles d'ailleurs que certains d'entre eux louaient. C'est lui qui a créé donc l'aurore pour donner l'espoir. Il y avait des gens qui louaient aussi le soleil, puis la nuit, les eaux, la mer. Il est le créateur. Et ça montre à quel point c'est ridicule de convoiter quand nous avons un créateur qui nous aime. J'ai suscité parmi vous fils et prophètes, parmi vos jeunes gens, des Nazaréens. Qui sont des Nazaréens? Ce sont ceux qui ont pris des vœux, qui ont laissé pousser les cheveux, qui ne buvaient pas de vin. Puis, ils sont tellement méchants, tellement contre l'Éternel, qu'ils font boire ces gens-là. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes? Vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Ça, c'est pourquoi ils devaient appeler un Amos. Voici, je vous écraserai sur place, comme écrase un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui est vigoureux ne pourra pas déployer sa force. Et le guerrier ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds agiles n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Parce que l'Éternel est celui qui juge. Et puis ça continue. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. Et ça, c'est pourquoi aussi, nous, en tant que l'Église, nous devons aussi passer devant le tribunal de Christ. Parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a sauvés,
parce qu'il nous a bénis.
Et donc ces passages comme ça, ça nous avertit pour que nous ne sombrions pas dans ce même piège, en fait. Alors deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Est-ce que vous avez essayé de marcher avec quelqu'un qui est fâché contre toi? C'est très difficile. Il y a toujours un qui marche un peu plus vite que l'autre. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Non, les lions, ils ne gaspillent pas leur voix. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Vous avez tous vu des images sur Arte, j'imagine. Les lions, quand il n'y a pas de proie, ils font quoi? Ils s'allongent, ils dorment. Mais ils rugissent là quand il y a de quelque chose. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? C'est un peu bizarre. Si un oiseau en plein volant, il tombe juste comme ça, sans qu'il y ait un piège. Le filet s'élève-t-il du sol sans qu'il y ait rien de pris? Ces filets, ils sont faits justement pour que quand il y a quelque chose qui se met dans le filet, et puis ça prend la bête. Ça ne se lève pas juste comme ça. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? C'est un petit peu comme pendant la guerre. Ici, quand il y avait les sirènes, les mêmes sirènes d'ailleurs qu'on entend le premier du mois, dans les années 40, ça effrayait les gens. Et c'est la même idée ici. Sentant du corps dans la ville sans que le peuple soit en émoi, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est-à-dire que l'Éternel, il juge. Et si le jugement de l'Éternel tombe, c'est lui qui est donc l'auteur. Et ainsi, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur éternel parle, qui ne prophétiserait? C'est-à-dire que toutes ces autres choses, ce sont les causes et les évidences. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on est en colère. Et le lion, il ne rugit pas juste parce qu'il aime entendre sa voix. Il y a une raison pour ça. Et l'Éternel, lorsqu'il parle, il y a une raison. Quand il le dit, nous pouvons être sûrs que ça va arriver exactement comme il a dit. Et s'il dit qu'il y a le malheur à venir, il faut attendre parce que ça va arriver. Et trop souvent, lorsque nous pensons à ce que ça va être, bien sûr, nous pensons à notre part qui serait avec Jésus, mais nous oublions aussi du fait que pendant la grande tribulation sur terre, ça va être ça, une très grande et misérable tribulation pour la majorité du monde. Et Dieu nous a demandé d'être prêts. Jésus a dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous pouvons être sûrs que ça va arriver exactement comme il a dit. Il dit, fais retentir votre voix dans les donjons d'Asdod, dans les donjons du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Que d'oppression en son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur donjon, produisent de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici un ennemi. Il investit le pays. Il te dépouille de ta force et tes donjons sont pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites. C'est-à-dire que les bergers, s'ils perdent une bête, c'est les bergers qui paient. Alors pour ne pas payer pour ces bêtes, il fallait qu'ils récupèrent ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire peut-être arracher un bout de pattes juste pour prouver que voilà, c'est pas leur faute, c'était un animal qui l'a dévoré. Ils disent voilà ce qui en reste, ce qui en restera après le jugement. Écoutez et témoignez de ceci, maison de Jacob, oracle du Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées. Le jour où je demanderai compte à Israël de ses transgressions, je lui demanderai compte des autels de Bethel. Les camps de l'autel seront brisés, ils tomberont à terre. Je renverserai la maison d'hiver, maison d'été, les palais d'ivoire seront ruinés. Ce sera la fin des nombreuses maisons. À quoi bon des belles maisons le jour de l'Éternel? Et puis d'autres choses encore. Chapitre 4, verset 1. Écoutez cette parole, vache de Bassan. Vous qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez des indigents, qui écrasez des pauvres, qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous élèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. Que faisaient ces femmes? C'est le produit, en fait, de tout le système. Parce que leur mari ne souciait pas de suivre l'Éternel. Il ne montrait pas l'exemple. Alors les femmes, non plus. Et les femmes sont devenues, autrement dit, comme des vaches. Et toute cette opulence va être enlevée. Ça montre aussi une autre chose, à quel point le Seigneur déteste la snoberie. Il ne faut pas qu'un chrétien soit snob, mais qu'il soit le premier à accueillir même et surtout ce qui gêne. Il dit, allez à Bethel et pêchez, allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices de matin et vos dîmes tous les 3 ans. Là, il se moque carrément. C'est le sarcasme. Il dit, mais allez, puisque vous aimez pêcher tellement, allez, et continuez. Parce que, verset 11, je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorre, que Dieu bouleversera. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et a créé le vent, qui fait connaître l'homme ses pensées. C'est lui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les choses vont mal, pourquoi est-ce qu'on a tous nos belles idées, ce qu'il faut faire? Vous voyez, les choses commencent à aller mal. Et est-ce qu'on prie tout de suite? Ou est-ce qu'on pense, ah oui, mais peut-être si je fais ça, ou bien si j'appelle un tel, et puis on parlera. Ça montre en réalité à quel point on ne pense pas à Dieu comme on doit le faire. Parce que Dieu, il utilise souvent des choses très banal pour attirer notre attention. On ne pense pas à lui. Et ça peut aller très loin. Bon, il ne veut pas que nous soyons superstitieux quand même. Mais il veut quand même partager toute notre vie, les hauts comme les bas. Et il veut que nous lui faisions confiance parce que il sait des choses. Et il peut justement nous aider et ouvrir des portes qu'on ne sait pas. Parce que si on en refoule tout le temps, c'est dégrade petit à petit notre relation. C'est un petit peu comme si vous connaissiez quelqu'un qui avait quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, qui est peut-être mécanique et qui aime beaucoup travailler sur les voitures, mais vous avez votre 205 qui tombe en panne tous les 3 jours, et vous essayez de le réparer, mais vous ne pouvez pas, et puis vous faites beaucoup plus de mal à cette pauvre voiture, alors que tout le temps votre ami est là, il dit, mais je suis là. Alors Que dira-t-il si, après tout ça, vous allez un garage pour faire réparer la voiture? Et puis vous dépensez beaucoup d'argent. Ça va détruire la relation tôt ou tard, si vous continuez comme ça. Bien sûr, avec Dieu aussi. Et eux, ils sont allés tellement loin que c'est devenu même l'idolâtrie, jusqu'au point où Dieu dit, mais finalement, prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Quelle phrase effrayante. Prépare-toi. C'est-à-dire que le jugement vient et tu verras celui que tu as ignoré pendant toute ta vie. Alors, en Christ, nous pouvons aussi préparer notre rencontre avec Dieu d'une bonne manière. Parce que, comme Jésus a dit en Jean chapitre 19, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et son Fils. Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Connaissons Jésus. C'est sa croix qui nous a fait connaître le cœur de Dieu. Et en restant attachés à lui, nous connaissons mieux le Père. Nous préparons notre rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une rencontre avec Dieu. Nous sommes continuellement dans sa présence. Nous en profitons. Ça, c'est la bonne manière de le faire. Et chapitre 5, il dit, écoutez cette parole, cette complainte que j'entends sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée. Elle ne relèvera plus la Vierge d'Israël. Elle est couchée sur sa propre terre et nul ne la relève. Car ainsi par l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettra en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Puis dit, cherchez-moi. Cherchez-moi. N'oubliez pas que dans la loi, les bénédictions de la loi, c'était une personne parmi vous, il va mettre en fuite une centaine. Et une centaine va mettre en fuite 1000. Alors que là, c'est tout l'inverse. Ça, c'est dans les malédictions. Il y a toujours de l'espoir. Il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi alors. Et puis, s'ils ne veulent pas, s'ils continuent de bâtir des maisons, comme il dit, de pierre de taille, verset 11, ou de bâtir leur vigne, on travaille sur sa maison, on prépare sa retraite, on fait tout pour être sûr dans la vie. Je ne peux pas aller à l'église parce qu'il faut que je travaille. Je n'ai pas le temps de lire la Bible parce que je lis le journal. Éventuellement, tôt ou tard, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et bon, oui, peut-être vous allez travailler très très bien pour gagner bien votre vie, mais si on gagne le monde et perd son âme, à quoi bon? Et puis, il y a un autre dernier problème, et on va terminer sur ça. Et c'est qu'il y a un intérêt malsain sur la fin des temps. Et je parle plutôt du monde, et ça peut être aussi dans l'Église. Dans l'Église où on est tellement penché là-dessus qu'on devient un peu bizarre. Ou bien dans le monde où les gens ils sont tellement fixés sur ça que il lit toutes les choses de Nostradamus ou bien ils lisent ils vont voir tous les films qui sortent sur le sujet ou, ils regardent les astéroïdes enfin vous voyez le genre de personnes et ça peut mener justement à la folie. Il y a des gens justement qui vont trop loin dans cette idée. Et pourquoi? À quel point? Verset 18, il dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que morde le serpent. » C'est-à-dire, il n'y a pas de... Même pour ceux qui sont les plus chanceux, ça va terminer très mal. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je m'éprive vos fêtes. Je ne puis sentir vos cérémonies. quand vous me présentez vos holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et des veaux gras, je ne les regarde pas. Ils pensent être religieux, ils pensent connaître Dieu, ils pensent que tout va bien. Oh oui, le jour de l'Éternel, il va juger tous ces méchants. Ils disent en allant à la fête. Et puis après la fête, après les journées solennelles, ils se comportent comme les païens. C'est vrai que pour nous, il y a cette espérance glorieuse, l'enlèvement de l'Église, d'être avec Jésus pour toujours. Mais n'oublions pas la souffrance qui va suivre après. Et quelle horreur que ça va être. On ne veut pas être exalté dans nos propos par rapport à ça. Parce que c'est solennel. Même s'il y a une espérance glorieuse pour nous. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il ne faut pas non plus être tellement penché sur le jour de l'Éternel qu'on devient irresponsable dans cette vie ici. Ça, c'est aussi une erreur. Ah oui, bon, c'est pas la peine de faire des économies. L'Éternel viendra. Je prends un crédit. Il viendra certainement avant que je dois le payer. Mais ça, c'est la folie. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il se peut que l'Éternel, il attend. Et vous devez payer chaque centime. Mais avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans dans le désert d'Israël? Emportez donc à Sikot votre roi et à Kiyun vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Je vous déporterai au-delà de Dama, dit celui dont le nom est l'Éternel, le Dieu des armées. C'était pas une image très joyeuse à me, dont le nom veut dire fardeau. C'est plutôt lourde. Mais ça fait partie de la vérité. Et la vérité, ça libère. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne nous ment jamais. Il nous dit ce qui est à l'horizon. Et des passages comme ça, même s'ils sont un peu durs, on se réjouit. Parce que ce sont, si vous voulez, les gifles d'un ami. Un ami beaucoup plus grand, beaucoup plus proche qu'un vrai frère. Un vrai dans le sens physique. Et s'il nous corrige avec ses paroles, tant mieux, si on apprend la leçon. Parce qu'on aime tous mieux ça que lorsqu'il doit nous corriger autrement. Qui est beaucoup plus contraignant. Mais ne soyez pas découragés, parce que le Seigneur corrige ceux qui l'aiment. C'est une preuve de son amour. Alors on peut dire, Amos, il a beaucoup d'amour pour nous. Alors prions.